Bonjour, aujourd'hui je viens de vous parler de Saint-Luc et de son évangile parce qu'on va bientôt commencer une nouvelle année liturgique avec le début de l'Avent et ce sera l'année liturgique C, durant laquelle on va surtout lire des extraits de l'évangile de Luc aux messes du dimanche. Alors j'ai pensé que ça serait intéressant de s'introduire un petit peu à qui il est puis aux caractéristiques de son évangile. Alors, qui est Luc? Ben, en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait qu'il ne faisait pas partie du groupe des 12 apôtres de Jésus et qu'il n'a pas fréquenté Jésus durant le temps de son ministère public. On sait ça parce qu'au début de son évangile, il dit que pour pouvoir rédiger son texte, il a dû s'informer soigneusement auprès des personnes qui ont été des témoins oculaires. On sait par ailleurs qu'il a accompagné Paul pendant une partie de ses voyages missionnaires, Saint Paul, et que Paul, dans une de ses lettres, le qualifie de médecin. Alors, puis de fait, on voit à la lecture de son évangile que c'était quelqu'un de cultivé. Des quatre évangiles, c'est celui qui a le vocabulaire le plus étendu. Il aime beaucoup employer des synonymes puis des mots un petit peu plus compliqués. Ça paraît pas nécessairement quand on lit le texte en français, mais quand on le lit dans la langue grecque, qui est la langue d'origine dans laquelle a été écrit l'évangile. Ben, je vous le dis qu'il faut déjà être un peu un connaisseur du grec, là, parce que sinon on a souvent besoin de son dictionnaire pour être capable de connaître tous les mots qu'il emploie. Il a écrit son évangile autour des années 80-90, à peu près à la même époque que Matthieu, de son côté, écrivait lui aussi un évangile. Et lui, son public cible, ce sont des non-juifs, des gens qui ont grandi dans d'autres religions et qui ont découvert le Christ sur leur chemin. Un public qui est probablement composé de personnes assez cultivées. On dit ça justement en raison là, du type de vocabulaire qu'il emploie. Et probablement un public de culture grecque. Maintenant, si on essaie de regarder quelques grandes caractéristiques de cet évangile-là. Ben, une première caractéristique, c'est vraiment toute l'attention qui est accordée au travail de l'Esprit-Saint. Très souvent, l'Esprit-Saint est mentionné dans cet évangile-là. Il est mentionné en fait 17 fois. Et il apparaît dès le départ dans ce qu'on appelle les récits là, de l'enfance, c'est-à-dire les récits nous racontant la conception de Jésus, sa naissance. Et Luc, par exemple, prend bien la peine de dire que Jésus a été engendré par l'Esprit-Saint. On nous dit ça là, notamment lors du récit de l'Annonciation, où est-ce que l'ange dit à Marie ben, que l'Esprit-Saint viendra sur toi. Mais on retrouve aussi l'Esprit-Saint, par exemple, vous savez, en lien avec ce vieillard Siméon, qui, lorsque la Sainte Famille vient présenter l'enfant Jésus au temple, bien, ce vieillard qui se présente, hein, et puis on dit que l'Esprit-Saint le pousse au temple, l'Esprit-Saint est aussi celui qui le rend capable de reconnaître dans ce petit enfant qui est dans ses bras, de reconnaître en lui le Messie. Et tout au long du reste de l'Évangile, c'est comme ça. Hein? L'Esprit-Saint, Luc nous montre qu'il est très agissant dans la vie de Jésus. Ben, ça commence lors de son baptême, bien sûr, où l'Esprit-Saint descend sur lui, dit Luc, sous forme corporelle, comme une colombe. Mais il va être agissant aussi dans tout le reste de son évangile. Donc, vraiment, c'est l'évangile de l'Esprit-Saint. Vous allez le remarquer, là, certainement, tout au long de l'année liturgique. En tout cas, je vous invite à porter attention à ça, pour voir toutes les fois que l'Esprit est mentionné. Une autre grande caractéristique de l'évangile de Luc, bien, c'est ce que j'appellerais l'aujourd'hui du salut. Pour Luc, là, le salut, ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement après la mort et la résurrection d'une personne. Non, dès qu'une personne s'ouvre à mettre sa foi en Jésus, accueille Jésus dans sa vie, le salut prend place pour cette personne immédiatement dans sa vie. On le voit, par exemple, avec Zachée. Vous savez, cette rencontre où est-ce que Jésus rencontre ce petit homme là qui était monté dans un arbre pour le voir, et puis que Jésus s'invite chez lui. Eh bien, une fois que Zachée dit au Seigneur qu'il veut donner aux pauvres toute une partie de ses biens, tout ça, et qu'on voit qu'il accueille vraiment Jésus dans sa vie, alors le Seigneur dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Hein? » Alors, on remarque ce mot « aujourd'hui » qui est mentionné. On retrouve quelque chose de semblable dans le dialogue de Jésus avec un des deux brigands crucifiés avec lui, celui que traditionnellement on appelle le bon larron, hein, qui reconnaît qu'il a mal agi dans sa vie, qui prend la défense de Jésus par rapport à ceux qui le calomnient. Eh bien, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ce n'est pas seulement parce que c'est ce jour-là qu'il va mourir, mais c'est parce que c'est ce jour-là qu'il a accueilli Jésus. Et c'est pourquoi nous retrouvons encore cette notion de l'aujourd'hui. Alors, ça amène bien sûr une dimension de joie. Et ça, c'est une autre grande caractéristique de l'évangile de Luc. C'est l'évangile de la joie. C'est vraiment surprenant de voir là, toutes les fois qu'on a le mot « joie »,« allégresse », le verbe « se réjouir hein, ». C'est très, très fréquent. Et ce qui apporte la joie comme ça, bien, c'est bien sûr l'arrivée du royaume, c'est la naissance de Jésus, c'est le salut qui est offert, la miséricorde aussi qui est donnée aux pécheurs. Et ça nous amène aussi à une autre couleur typique de l'évangile de Luc, et c'est justement la question de la miséricorde. On pourrait dire que le troisième évangile, l'évangile lucanien, hein, l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. On trouve plusieurs passages dans l'évangile de Luc qui lui sont propres et qui touchent ce thème-là. Pensez par exemple à cet épisode d'une femme qui s'invite dans un banquet chez un certain Simon, où est-ce qu'elle vient pleurer sur les pieds de Jésus, lui répandre du parfum essuyé avec ses cheveux au chapitre 7. Eh bien, Jésus va lui dire que ses péchés ont été pardonnés. Hein? Un épisode qui est propre à Luc. Il y a aussi tout un chapitre qui est consacré à la miséricorde, le chapitre 15, où nous trouvons trois paraboles de la miséricorde, dont deux sont propres à Luc. Alors, on trouve la parabole de la brebis perdue et retrouvée, qu'il a en commun avec Matthieu, bien que chez Matthieu, c'est une interprétation un petit peu différente. Il y a la parabole de la pièce de monnaie perdue et retrouvée, qui est propre à Luc, et la parabole d'un fils perdu et retrouvé, hein, celle que j'aime appeler la parabole du père pardonnant, ou qu'on pourrait appeler la parabole du père prodigue, parce qu'il dépense sa miséricorde sans compter pour ce fils qui s'est éloigné de lui et qui l'accueille à son retour. Il y a bien sûr la rencontre avec Zachée, le publicain dont je parlais tantôt au chapitre 19, qui est une très belle parabole de miséricorde, où Jésus se rend chez lui sans lui poser de questions sur sa vie passée. Le dialogue avec le bon larron sur la croix, dont on a parlé un petit peu aussi. Mais non seulement Luc nous montre que Jésus est prêt à donner la miséricorde du Père, son pardon de manière très généreuse, mais Luc se montre lui-même un homme de miséricorde. C'est vraiment frappant de voir que dans son évangile, il tend à camoufler les gaffes, les erreurs des apôtres. Alors que quelqu'un comme Marc va montrer à quel point les apôtres ont de la difficulté à comprendre, comment ils sont bouchés, comment ils ont de la misère à cheminer avec Jésus, puis qui font des erreurs, des gaffes, eh bien, lui, Luc, a tendance à ne pas raconter ces choses-là. En particulier, il va amoindrir les erreurs, les gaffes de Pierre et même de Judas. Alors, c'est vraiment frappant. Une autre caractéristique de l'évangile de Luc, c'est sa sympathie à l'égard des femmes. Il vient.